Alors bonjour à tous et à toutes. C'est un privilège, un grand plaisir, mais aussi une responsabilité d'être là devant vous et d'ouvrir la parole de notre Seigneur. Et je le dis souvent, lorsque nous sommes, comme vous le savez, éloignés de vous, dans le midi de la France, pour passer un automne et un hiver moins rigoureux, vu notre âge, on se permet ça. Et vous nous le permettez aussi. Mais avec une joie intense de faire référence à cette petite église de Bligny que nous aimons tant. Et nous disons souvent, et c'est une vérité, je vous promets, nous avons des frères formidables. Et nous avons le privilège, par le truchement d'un guy qui se cache là derrière, mais qui est précieux pour nous, puisqu'il nous transmet des messages, même quand nous sommes absents. Nous pouvons profiter de ce que le Seigneur donne au travers de ses serviteurs. Et ils sont plusieurs, ils sont nombreux, et nous les apprécions. Parce que c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Quelle faveur que celle-là. Et nous demandions au Seigneur, vous souvenez-vous, mes chers frères, qu'il a grandi sa petite église. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes des témoins. Des témoins émerveillés de ce que le Seigneur fait. Parce qu'il se conserve un témoignage puissant au travers de son évangile et au travers de ceux qui essaient à l'aide du Seigneur et par l'onction de son esprit de refléter quelque chose de la parole qui nous enseigne chacun, parce qu'il n'y a pas que seulement qu'à l'église que nous pouvons lire les Saintes Écritures. Nous pouvons avoir un contact avec elles quand nous le voulons, nuit et jour, si on le veut. Et c'est un privilège d'être là. Et nous en remercions le Seigneur et nous allons le prier qu'il nous aide à ouvrir notre cœur à sa parole. Prions. Notre Seigneur bien-aimé, merci pour cette occasion que tu nous accordes d'être là, d'ouvrir ta parole. C'est un privilège, mais aussi une responsabilité pour chacun. De la dire, de l'entendre et aussi de la réaliser. Nous te demandons, Seigneur, par l'onction de ton esprit, que tu veuilles la rendre vivante au travers de nos paroles, de nos actes, de tout ce que nous pouvons penser et même te demander. Nous savons que tu feras au-delà, Seigneur notre Dieu, de ce que nous pensons ou te demandons. Nous t'adressons notre reconnaissance, notre amour, notre adoration, parce que tu en es digne. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît, à ta sainte parole, et que tu veuilles édifier nos âmes et faire en sorte que, comme nous l'avons chanté dans ce cantique, tous étant des serviteurs de l'Éternel, nous puissions refléter quelque chose de ta beauté, de ta grandeur et de ton amour puissant. Nous te demandons ces choses dans le bon nom de Jésus. Amen. Le thème de ce matin que le Seigneur a mis à cœur, c'est des sacrifices et une seule offrande. Des sacrifices, il y en a au travers de toute l'Écriture. Vous le savez très bien, aussi bien que moi. Et la définition de sacrifice consiste à présenter des offrandes à Dieu lors d'un service religieux, un culte, qui est rendu à Dieu par l'Esprit Saint et parce que nous sommes chrétiens et pas des chrétiens. Alors, Hébreux 13, 15 dit « Offrons donc à Dieu sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui honore, qui bénit son nom. » C'est notre privilège. Et le premier sacrifice que nous trouvons dans la Bible, c'est celui qui a été fait par notre Dieu. C'est un événement qui est rapporté dans le livre de la Genèse au début de ce premier livre de la Bible. En fait, lorsque nos premiers parents ont écouté la voix du tentateur, qui a dit à Ève, « Quoi ? Dieu a dit ? Vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre du jardin ?» Voilà. Nos premiers parents, en tout cas, cette première femme de la Bible, a écouté la voix du tentateur plutôt que la voix de Dieu. Et le piège s'est refermé. Et hélas, nous sommes tous contaminés par cette première désobéissance. Adam et Ève se cachent. Ils nous ont peur. Et ils ont honte. Négliger le cours biblique que le Seigneur nous fait régulièrement, négliger le cours biblique que Dieu a fait à Adam et qu'il a certainement partagé avec sa femme. Nous allons lire ce passage-là qu'on le trouve en Genèse 2, versets 16 et 17. « Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme, disant, « Tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Pas une mort physique. Adam n'est pas mort tout de suite, mais une mort spirituelle, sûrement. Et ce qui s'est passé, c'est que l'homme s'est séparé de Dieu. Il n'a plus entendu sa voix le matin, au frais du jour, quand Dieu donnait ce privilège à sa créature de parler avec elle. Cette créature qu'il aimait et à qui il avait fait tellement de cadeaux, de tout arbre, sauf un seul commandement. Et nos premiers parents n'ont même pas pu le garder. Alors, qu'est-ce que fait l'Éternel au chapitre 3, verset 31. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau et les en revêtit. Premier sacrifice qui nous est rapporté dans la Bible. C'est Dieu qui nous fait ce premier sacrifice. Et c'est un sacrifice d'un animal innocent. Nous pouvons le considérer ainsi. Pourquoi faire ? Pour revêtir. Et c'est déjà un symbole, vous en conviendrez, parce que dans la parole de Dieu, revêtir, c'est couvrir une faute. Et nous pouvons voir dans cet exemple-là le sacrifice qui sera offert plus tard par un agneau sans défaut et sans tache. Vous avez reconnu le Seigneur Jésus, duquel Jean dit dans son évangile au premier chapitre, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Nous en avions tellement besoin, vous et moi, moi et vous. Et il a été offert, ce sacrifice. Un autre sacrifice, plutôt, il nous est présenté comme étant une offrande, c'est celle de Caïn. Et c'est le premier qui prend l'initiative d'offrir à Dieu des fruits, du sol qu'il a cultivé. Il pense qu'il fait une bonne œuvre en présentant à Dieu des fruits du sol qu'il a cultivé. Et puis ensuite, il nous a parlé d'Abel, son frère, qui a offert à Dieu des agneaux de son troupeau et de leur graisse. Mais si vous êtes familier avec la Bible, vous comprendrez facilement que c'est bien justement ce que l'Éternel demande. Qu'on offre des agneaux et de leur graisse et de les offrir en holocauste pour produire une odeur qui est agréable à Dieu parce que l'holocauste signifie offrir entièrement, brûler entièrement. je reviens sur le sacrifice de Caïn, un sacrifice qu'il a imaginé. Mais hélas, sans doute, ses parents ont-ils parlé de ce que l'Éternel avait fait. Caïn offre du fruit du sol qu'il a cultivé. Un sol qui, hélas, avait été maudit par Dieu à la suite de la faute de son père, d'Adam. Nous lisons en Genèse 3, verset 17, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé du fruit de l'arbre duquel je t'avais commandé, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi. » Il offre du fruit d'un sol que Dieu a maudit. Il ne savait pas. Nous ne savons pas. Nous pouvons présumer que ses parents leur avaient raconté pourquoi ils avaient eu peur, pourquoi ils avaient eu honte, pourquoi ils s'étaient cachés. Ça n'a pas changé. Maintenant encore, à cause du péché, peut-être, on a peur. À cause du virus, on a peur. Et quelquefois, à cause d'une faute qui est commise, on a honte. Rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible. Mais quel est le sacrifice, l'offrande à Dieu qui lui est agréable? L'offrande selon mon appréciation? Ou une offrande selon son cœur? Déjà, le projet divin par excellence, c'est-à-dire le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, il a offert son corps en sacrifice pour le péché. Il a offert son corps en sacrifice, en soumission, en obéissance à Dieu. Il a offert un sacrifice excellent que seul Dieu pouvait accepter pour couvrir ma faute, pour me pardonner tous mes péchés. Et si je mets ma confiance dans ce que Dieu a fait en faveur de mon péché, alors tout ira bien. Bien, chers amis, j'ai aidé un pouce de terrain à l'ennemi, il finira par tout envahir. Lutter pour la gloire de Dieu, c'est se trouver dans le camp des vainqueurs. 1 Jean 5, verset 17, « Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Mais celui qui est né de Dieu se conserve lui-même. Et le méchant ne le touche pas. » Quelle grandeur dans cette parole de notre Dieu. Si nous sommes attentifs, s'il ouvre nos cœurs pour recevoir par l'onction de son esprit ce que notre Dieu dit, alors tout ira bien. Écoutez la voix du Seigneur, discernez sa volonté, mettre tout en œuvre avec son aide. Alors nous aurons combattu le bon combat et nous aurons la victoire et elle sera à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et il en est digne. Parlons un instant du sacrifice demandé à Dieu à Abraham. Vous vous souvenez ? De Genèse 22, Abraham, il répond, me voici, Éternel. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Rien de plus précis, n'est-ce pas? Et offre-le sur une des montagnes que je te dirai. Est-ce qu'on imagine à peine ce que ça représente pour Abraham? Sans doute est-il le père de la foi, mais sacrifier mon fils, est-ce que je ne me posais pas la question, Seigneur, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Sacrifier mon fils unique. C'est vrai, il y a Ismaël, c'est le premier-né. Mais ce n'est pas le fils de la promesse. Le fils de la promesse, c'est bien Isaac, ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Isaac, est-ce qu'on ne fait pas écho à cette parole que le Seigneur dit ? Me voici, il est écrit de moi dans le rouleau du livre, me voici, ô Dieu, pour faire ta volonté. Et vous savez de qui il est question dans cette prophétie ? de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, me voici, ô mon Dieu. Pour Jésus, son grand amour l'a maintenu sur la croix. Pour Isaac, vous le savez, il y a eu un bélier qui était tenu par les cornes à un buisson. Et c'est lui, à la place d'Isaac, qui a été offert en sacrifice à l'Éternel. Mais pour Jésus, il n'y a pas eu de sacrifice de substitution. Lui est allé jusqu'au bout pour trouver le moyen de me pardonner, de nous pardonner, de pardonner à l'humanité entière. Mais a-t-on déjà mesuré le poids du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ? Nous disons quelques mots à ce sujet-là. Quels sont les sacrifices agréables à Dieu? Il y a beaucoup d'enseignements intéressants dans la vie des rois d'Israël et des rois de Juda. Notamment, nous trouvons pour Ézéchias, qui fut fidèle à l'Éternel, lors d'un rassemblement du peuple, la parole de Dieu nous dit ceci: « Vous, vous êtes maintenant consacrés à l'Éternel. » Ne le sommes-nous pas, chers amis? « Approchez-vous et amenez des sacrifices et des offrandes de louanges dans la maison de l'Éternel. » Vous trouvez ce passage dans 2 Chroniques 29, verset 31. Quelle symbiose dans tout ce que la parole de Dieu nous dit. Quelle actualité encore. Ézéchias a vécu des centaines d'années avant nous. Et le Seigneur nous demande la même chose aujourd'hui. D'offrir des sacrifices, de louanges, qui soient agréables à son nom, qu'il honore notre Dieu. Ça n'a pas empêché le Seigneur de donner des épreuves importantes à Ézéchias. Vous connaissez ce roi fidèle et les épreuves qu'il a dû subir, quelquefois bien douloureuses. Les enfants de Dieu, les serviteurs du Seigneur, ne sont pas exempts de souffrance. N'est-ce pas, mes amis? Nous connaissons chaque cœur, l'Écriture connaît sa propre amertume. Chaque cœur connaît sa propre amertume. Et un autre ne se mêle pas à sa joie. Ça, c'est la parole de notre Dieu. Tous ici, nous connaissons de l'amertume dans nos vies. Avec notre Seigneur, tout est heureux. Et l'apôtre Paul nous dira, réjouissez-vous toujours, mais dans le Seigneur. C'est d'accord lui que nous pouvons avoir une joie entière, complète, définitive, mais avec des larmes. Vous en avez versé, vous aussi, très certainement. Et quelqu'un a dit, un chrétien qui n'a pas d'épreuve, c'est un pauvre chrétien. Ne fût-ce que faire référence à l'apôtre Paul et ce qu'il a connu. Du reste, le Seigneur, par Ananias, lui a fait dire, je lui montrerai combien il doit souffrir pour mon nom. Je pense que les serviteurs de l'Éternel sont les premiers visés par la souffrance, par la douleur, par les épreuves. La raison pour laquelle le Seigneur nous demande de prier pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui servent dans la parole, et nous en connaissons quelques-uns. Parce qu'ils sont les cibles privilégiées d'un ennemi aussi redoutable que le Satan, le diable, le malin. Et ils ne se privent pas. Au fait, vous savez comme moi que ils nous accusent nuit et jour. Ce Satan, ce diable, nous accuse nuit et jour devant Dieu. Tu vois ce qu'il fait, lui? Il se prétend un enfant de Dieu, à tes serviteurs. Tu vois ce qu'il pense? Un autre roi, mais qui n'avait pas la même fidélité à l'Éternel qu'Ézéchias, a entendu de sa part cet avertissement. Nous lisons en 2 Chroniques 16, verset 29, 2 Chroniques 16, verset 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre afin de se montrer fort en faveur de ceux qui sont d'un cœur parfait avec lui. se montrer fort en faveur d'un cœur qui se montre parfait avec lui. Et si nous entendions la parole de Dieu, comme la vie serait plus facile, comme la vie serait plus agréable. Vous savez, ça fait écho. Hein? Celui qui vous parle, ça fait écho dans sa conscience et dans son cœur. Alors, mes amis, toutes ces choses ont été écrites, nous dit 1 Corinthiens 10, verset 11. Toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction et pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint. Combien cette parole est précieuse, combien cette parole me parle, à vous certainement aussi, bien chers amis. Et hélas, celui dont il a été question, qui a reçu l'avertissement d'Éternel, mais nous nous disions qu'il était moins fidèle qu'Ézéchias, c'est le roi Asa. Et pourquoi est-il dit cela? Parce qu'au moment d'épreuve, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recherché les médecins plutôt que l'Éternel. Notre première démarche, mes amis, quand l'épreuve se présente, y compris une maladie, Seigneur, s'il te plaît, soutiens-moi, fortifie-moi. Est-ce que nous sommes contre les médecins? Loin de là. Parce que Dieu a créé et a instruit des personnes de science pour aider toutes sortes de maladies. Par conséquent, et le Seigneur n'est pas contre, puisqu'il a dit, médecin, guéris-toi toi-même. Nous ne sommes pas contre les médecins, loin de là. Ne pensons pas que nous ne devons pas recourir des fois à des praticiens qui nous aideront et qui aideront dans cette tâche qui est, comme on le dit, une noble tâche pour aider les créatures faibles que nous sommes et parfois malades à surmonter cette maladie. Et pour nous chrétiens, qu'est-ce que nous dit David au psaume 51 ? Les sacrifices de Dieu sont un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne mépriseras pas un cœur brisé et humilié. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure dans Romains 12, verset 1, le Seigneur nous invite à un sacrifice de nos vies mêmes. N'y a-t-il pas là une référence à imiter le modèle parfait, notre Seigneur Jésus-Christ? Nous citons Romains 12, verset 1. Je vous exhorte à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible dit un culte intelligent. Voyez-vous, permettre parfois un sacrifice de nos vies, de nos corps, de tout ce que nous avons de plus précieux, à honorer l'Éternel, eh bien c'est un sacrifice qui est à l'honneur de notre Seigneur. Et il nous aidera, dans ces circonstances pénibles, à lui rester fidèle, d'une part. Il nous accompagnera dans notre détresse, parce que, je ne sais pas vous, mais nous en avons connu des détresses, et le Seigneur n'a jamais manqué, jamais, à sa parole. Il sera toujours là. Il ne nous abandonnera jamais. Vous connaissez ce verset de Ésaïe, n'est-ce pas? Une maman oubliera-t-elle son nourrisson? Oui, vous dis-je. Mais moi, je ne vous oublierai jamais. Quelle précieuse ressource nous avons en l'Éternel, n'est-ce pas? Quelle précieuse ressource nous avons en notre Dieu. Et nous faisons référence quelquefois à ce psaume 22. Qu'est-ce qu'on appelle un psaume messianique où le Seigneur commence par dire cette parole qu'il a prononcée sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ne pensons pas que le Seigneur a interrogé son Père pour lui demander, mais Seigneur, pourquoi permets-tu ça? Parce que le Eli, Eli, Lama, Sabachthani, ce Lama a une autre signification que pourquoi m'as-tu abandonné, le pourquoi que nous avons l'habitude de considérer comme étant une interrogation pour savoir ce que cela signifie. Cela signifie plutôt le lama dans quel but Et nous savons quel est le but poursuivi par Dieu en donnant en sacrifice son Fils unique et bien-aimé. N'est-ce pas, mes chers amis? Avons-nous saisi l'immense grandeur de notre Dieu manifestée en Jésus, victime innocente, victime expiatoire? Permettez-moi de lire ces mots que j'ai consignés sur ma feuille. Victime pleinement consciente du prix à payer et qui n'a renoncé en aucun moment à réaliser le projet divin jusqu'à son achèvement total. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Je pense que nous sommes là pour dire: Seigneur, j'ai compris un peu, j'ai compris quelque chose du sacrifice que le Seigneur a consenti pour me sauver, pour me pardonner, pour me rendre agréable à toi et pour me donner un héritage avec tous les sanctifiés, un héritage avec ton Fils unique qui n'hésite pas à nous appeler ses frères. Je n'ose pas appeler le Seigneur mon frère, mais lui nous appelle ses frères. Va vers mes frères et dis-leur une autre différence. Quelle catégorie de personnes ont compris cela? Des petits-enfants, des jeunes gens, des pères. Et nous faisons référence à la première épître de Jean au chapitre 2, versets 12 à 17, dont je voulais vous dire quelques mots. Je vous écris, petits-enfants, parce que vous connaissez le Père. Nos pères nous ont enseigné et nous ont été en exemple de foi. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que vous avez vaincu le méchant. Nous faisons référence à Joseph, n'est-ce pas? Qui s'est enfui et qui a accepté d'être accusé à tort d'un viol qu'il n'avait pas commis. Échappé à la femme de Potiphar pour garder sa pureté. Et la conséquence a été des années de prison, n'est-ce pas? Des années de prison. Nous lisons cet épisode de Joseph qui a la capacité de nous édifier, chacun, mes chers amis. Je vous écris, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Ils connaissent et ont connu Dieu et la réalisation invariable de ses promesses. Ensemble, nous persévérerons jusqu'à la fin, avec lui, avec son aide et à son honneur. Enfin, j'arrive au cœur de la réflexion par une seule offrande. C'est le texte qui m'a paru important à souligner. Par une seule offrande, une seule. Nous n'avons pas parlé des sacrifices. Il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. Et c'est un passage que nous trouvons en Hébreux, chapitre 10. Vous le connaissez certainement. Chaque moine, une importance, une seule offrande. Une seule. Arrêtons-nous un instant sur cette expression. Elle a coûté cher à notre Sauveur. Quand, en Gethsémané, Jésus a été confronté à toute l'horreur, toute la cruauté, toute l'atrocité, du genre humain, auquel lui, le saint et le pur, ne pouvait échapper. Il pouvait échapper à ses souffrances, au point que par trois fois, il se jette à terre, le front dans la poussière. Ce front sur lequel sont apparus des grumeaux de sang, comme vous le savez. Quelle profondeur de la douleur que nous ne pourrons jamais, au grand jamais, peut-être même pas dans l'éternité, nous ne pourrons pas comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour avoir été jusque-là, pour me rendre libre, pour me pardonner, pour nous pardonner. Souvenons-nous-en, particulièrement au moment de la scène, quand nous nous souvenons de la mort du Seigneur et aussi de sa résurrection. Rendu parfait, oui, entièrement, bien entendu, mais parfait en Christ. Pas parfait par la capacité que j'ai. Matthieu 5, 48 déclare « Vous soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Mais Seigneur, comment puis-je être parfait? Je ne comprends pas. Nous pouvons demander à Dieu, « Seigneur, je ne comprends pas ce que tu nous demandes là. » C'est un passage qui vient aussi du sermon de la montagne qu'on appelle par ailleurs aussi les béatitudes en Matthieu 5, vous connaissez bien. Que faut-il en conclure? Comment peut-on approcher là où les perfections divines? 2 Corinthiens 7, verset 1, « Purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de chair et d'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Dans le cœur de celui ou de celle où se trouve l'Esprit Saint, où l'Esprit Saint a fait sa demeure, il y a un désir de sanctification. Et la sanctification nous amène à la sainteté. Et la sainteté, si nous le désirons vraiment, si nous la vivrons à chaque instant, avec l'aide du Seigneur, elle nous rendra ce que le Seigneur désire que je sois. Tendre vers la perfection du Seigneur Jésus-Christ. Ou bien, nous dirons une expression à ce sujet-là juste après. Mais il y a aussi ce qu'il faut citer, la première épître de Jean. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Un accident peut arriver. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Alors, la confession. Seigneur, pardon pour ce que j'ai fait. David, pour ne citer que lui, a connu quelque chose de bien méchant, a fait quelque chose de bien méchant. Mais le Seigneur avait dans son serviteur un cœur parfait, un cœur qui désirait en tout cas la perfection. C'est ce que le Seigneur nous demande, désirer la perfection, désirer être et de ressembler à notre Seigneur bien-aimé. Alors la confession et la demande sincère du pardon à Dieu est le remède absolu. Le roi Salomon, dans ses proverbes, a dit ceci, en Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne trouvera miséricorde. » La parole de Dieu me donne des enseignements qui sont tellement précieux pour moi. Alors, parfait en perpétuité, vous savez très bien que perpétuité est un synonyme de éternité. Alors, le Seigneur nous a acquis un salut éternel, qu'on met quelquefois en doute. Mais si le Seigneur me dit, si tu crois, tu es sauvé, qui croit au Fils à la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, il est passé de la mort à la vie. Qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est pour maintenant, c'est pour tout de suite, et ce que Dieu dit, il ne revient jamais en arrière. Alors, sachons que nous sommes sauvés pour l'éternité. Ceux qui ont vraiment cru, ceux qui ont abandonné toutes leurs fautes à la croix du calvaire, qui ont déposé ce fardeau à la croix de Jésus, ils sont pardonnés à jamais. Sauf que, accident, comme nous venons de le dire, alors on confesse. Et on abandonne cette méchante tendance. Et enfin, sanctifié par l'offrande de Jésus-Christ, faite une fois pour toutes. C'est Hébreux 12, 14 qui nous le dit. Alors citons enfin Romains 8. Car ceux qu'il a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous sommes déjà glorifiés en Christ dans le ciel. Que dirons-nous donc à ces choses? Mes chers amis, quand on approfondit quand même mot à mot ce que la parole de Dieu nous dit, alors on est émerveillé et on ne peut que l'être. Alors mesurons un peu l'immense grandeur de notre Dieu. Un exemple nous a été donné par notre frère Daniel la semaine dernière. Ça m'a beaucoup interpellé, son plan B. Vous vous souvenez? Merci Guy de nous avoir donné ce témoignage-là, qui, à distance et à un jet de pierre, si vous voulez, nous interpelle et nous édifie. Ce plan B, c'est un protocole que je ne vous propose pas d'utiliser pour essayer, si vous voulez voir le roi des Belges, utiliser et passer par la coupole du Palais Royal à Bruxelles. Vous ne serez certainement pas bien accueilli. Mais ça ne dérange pas le Seigneur. À Brancard, sur lequel est couché un homme infirme, transporté par 4 individus qui ont la même foi que cet homme qui demande à ce qu'on le présente au Seigneur. Vous imaginez cette façon dont nous a présenté Daniel la semaine dernière? Quel protocole spécial? Traverser à toi avec un infirme pour être devant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qu'est-ce que dit Jésus? Tes péchés sont pardonnés. Première chose, tes péchés te sont pardonnés. Peut-être que la faute qu'il a commise, peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ça a amené son infirmité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tes péchés sont pardonnés. La première réaction du Seigneur, c'est de pardonner les péchés. Et ensuite de nous guérir. Un autre cas de figure que notre frère nous entretiendra peut-être, c'est celui de Jean chapitre 5, où il y a un autre infirme qui est dans la piscine de Bethesda, et où là le Seigneur se dérange. Ce ne sont plus les amis, les 4, plus celui qui est infirme. C'est Jésus qui se déplace à la piscine pour dire à cet infirme qui est là depuis 38 ans, « Veux-tu être guéri ?» Je laisse le soin à un frère de nous développer cela parce que cet épisode est d'une richesse extraordinaire. J'y ai pensé, vraiment, ça nous amène des réflexions impossibles. Alors, je terminerai. Nous, parents, nous avons 4 genoux, chacun d'eux. Est-ce que sur nos genoux, et notamment le mardi quand nous le propose Jean-Luc, ne pourrions-nous pas apporter au Seigneur ceux que nous aimons pour qu'ils usent de grâce envers eux et que nous soyons tous réunis quand il viendra pour nous introduire dans la maison du Père. Il n'en manquerait aucun. Je vais vous citer deux paroles qui m'ont été amenées à aller voir dans la parole de Dieu. La puissance de l'Évangile. Est-ce que nous y croyons à la puissance de l'Évangile pour sauver? Il nous a dit ceci. Elle est telle que toute une maison peut en bénéficier. Il y a 2 exemples dans l'Écriture. Il y a celle où le Seigneur, ou un ange du Seigneur, dit à Corneille, envoie à Joppé et fait venir un homme qui s'appelle Simon, surnommé Pierre, et il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et ta maison. Est-ce que nous avons envie? En tout cas, c'est ma prière régulière. Seigneur, qu'il n'en manque aucun de tous ceux que nous aimons. Ils font partie de notre chère famille, que nous aimons beaucoup. S'il te plaît, sauve-les. Il y en a qui ne sont pas sauvés encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, notre prière, n'est-ce pas, est tellement d'actualité. Le deuxième, c'est, vous le savez, au geôlier de Philippe, où le Seigneur dit, qui a cru à la prédication de l'apôtre Paul, qu'il a fait devant tous, « Tu seras sauvé, toi et ta maison. » Le geôlier de Philippe, pendant la nuit, vous connaissez cet épisode du livre des Actes, où pendant la nuit, il y a un tremblement de terre, et il s'imagine que tous les prisonniers sont fichus le camp. Non. Et alors, il lave les plaies de Paul et de Silas, il les fait entrer dans sa maison, et la prédication de Paul et de Silas ont été telles que par l'Évangile, la puissance de l'Évangile, il a été sauvé, lui et toute sa maison. Quelle différence, mes chers amis, pour que nous ayons de l'ardeur, une détermination qui ne s'affaiblit pas pour que nos enfants, nos petits-enfants, et voire nos arrière-petits-enfants, soient sauvés. Alors, je voudrais vous dire une dernière anecdote, je ne sais pas si j'aurai le temps. En 2 mots, je vous dis ceci. Je me suis intéressé à la science. On disait que le soleil avait une demi-vie de 5 milliards d'années. En 2000, elle n'avait plus que 100 000 ans à exister, cette étoile. Et récemment, j'ai su que 4,26 à 4,3 tonnes par seconde d'hydrogène liquide sont transformés en hélium. Alors, les scientifiques sont un peu prudents et ils ont dit entre 1000 et 1500 ans d'existence encore du Soleil. Faites référence à ce que dit la Bible et vous verrez que c'est une preuve de la véracité des Saintes Écritures. Et il y en a des dizaines. Alors, mes chers amis, si au travers de ces réflexions le Seigneur vous a interpellé, alors pour que votre joie soit complète, pour que votre vie soit richement bénie et votre espérance vivante, demandons au Seigneur de nous aider à lui ressembler, penser, agir, aimer toujours plus comme toi, Seigneur. C'est notre espoir suprême et c'est ma prière. Amen.